Alors, bonjour à tous. C'est pas moi, Xavier Mauméjean. Non. Non, non, jamais je pourrais avoir autant d'érudition, de talent, de barbe que lui. Non, mais j'ai le super pouvoir de le faire venir, je pense. J'espère. Il va arriver. J'avais dit que je serais un peu en retard parce qu'il fallait que je présente Retour vers le futur. Mais je pense qu'il va arriver. En attendant, je peux répondre à une question, même si ce n'est pas sur les super-pouvoirs. Allez-y toujours, tenez. Ah, le voilà, bravo. Je m'apprêtais. Bien, allez.
Bonjour tout le monde.
Alors attends, je vais... Alors, voilà, je vais rester un peu avec toi du coup, hein. Je vais me reposer. Je pense qu'ici, je suis à l'abri avec vous. Ils viendront pas me chercher pour 10 000, 10 000 trucs. Alors, vous présentez Xavier Mauméjean, c'est presque... il faut un super pouvoir, parce qu'avec le nombre de choses qu'il fait, entre directeur de collection, auteur hyper talentueux, modérateur d'exception, hein, vous l'avez vu avec Étienne Klein jeudi, pour ceux qui étaient là dès le jeudi. Xavier Mauméjean écrit aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes. Son dernier roman, Kafka à Paris, est une merveille d'inventivité, d'intelligence narrative. Et puis, il travaille aussi beaucoup pour la jeunesse. Et notamment, il a travaillé aussi sur la notion de pouvoir et de super pouvoir. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir répondre à vos questions. Alors, Xavier, le principe est simple. Le public que tu vois là peut poser autant de questions qu'il veut. Et il faut essayer d'y répondre. Voilà, alors ça peut être aussi bien des questions très généralistes, évidemment ce sont souvent les plus intéressantes, hein, les plus difficiles. Et donc c'est à vous, sauf si tu veux dire quelques mots avant peut-être, avant de commencer.
Non, du tout, j'espère qu'on aura le temps juste de parler de la plomberie de l'immeuble de Clark Kent. Si on peut parler de ça, ce serait gagné.
La plomberie de l'immeuble de Clark Kent, très bien. Alors, qui pose la première question? Allez-y, ah bah voilà. Il marche pas ? Attendez. Sinon, tu peux prendre celui-là et... Un, deux. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce qu'il y a une définition la plus unanime possible, la plus simple possible aussi, de ce qu'est un super-pouvoir par rapport à une capacité, un apprentissage un peu au-dessus de la moyenne ou très au-dessus de la moyenne, mais encore dans les normes de la nature, quelle est la définition la plus simple et unanime possible d'un super pouvoir?
Je pense qu'on a eu de très jolies tables rondes ces jours-ci. Ce serait une augmentation c'est l'homme augmenté. Alors, en fait, on arrive à une définition. C'est pas tant dans la définition qui est générale que dans les raisons des super pouvoirs. En gros. On a très peu de raisons dans la bande dessinée ou dans les romans, et même dans les romans européens, parce que ça a commencé en réalité en Europe. En gros, il y a le malentendu, c'est Superman, qui n'est pas un humain. Donc en fait, il n'a pas de super pouvoir, sont juste des circonstances, un environnement qui le rend supérieur, mais... en plus, ces temps-ci, chez DC Comics, ils utilisent de plus en plus... On va avoir le cas avec le troisième Dark Knight de Frank Miller, où je suppose que tout le monde est au courant que, en fait, Batman va affronter un millier de Superman, puisque la petite ville de Kandor va être libérée. Donc, en fait, ce sont des super-pouvoirs par rapport à nous. Je parle de Krypton, par exemple. Mais eux sont normaux. Selon les critères de Krypton, c'est simplement les conditions, le soleil jaune de la Terre. Donc ça, c'est la première chose, c'est les super-pouvoirs qui n'en sont pas. La deuxième, c'est, disons, la mutation. Alors, il y a le grand arc X-Men, par exemple, dans la Marvel, qui a été mené à son sommet par un certain Chris Claremont, qui est un peu le Alan Moore des années 70. Donc c'est la mutation, c'est l'homo supérieur, c'est l'âge suivant de l'être humain. Et enfin, il y a la troisième possibilité qui est l'augmentation par l'intellect. C'est par exemple Doc Ardan de Guy Darnem en Europe, qui est une sorte de Doc Savage européen, qui est écrit en 1928, 5 ans avant Doc Savage quand même, hein, les Français, merci. Donc c'est le type qui, c'est Bruce Wayne tout simplement, qui décide d'augmenter ses capacités alors qu'il n'a pas littéralement de super pouvoir. Cela dit, sur le couple Batman-Bruce Wayne, on dit souvent Batman, il n'a pas de super pouvoir. C'est vrai, mais Bruce Wayne, il en a, lui, par contre. Parce que quand il a passé une nuit à stoler avec le Joker, qu'il est en sang, et que le lendemain, il est à une soirée à la mairie de Gotham en parfait état, et qu'il a demandé à Robin d'aller plier une Porsche, ça c'est un gag qui revient de plus en plus souvent, va plier une Porsche, donc ils ont un parc automobile de Porsche, Robin va prendre une Porsche et va la massacrer quelque part, ce qui explique que Wayne a un léger bleu à la pommette le lendemain. Donc en fait Batman n'a pas de super pouvoir, mais Bruce Wayne en a, ouais, c'est évident. Oui, oui.
Allez, on est bien parti là, autre question.
Alors, la mienne va plutôt porter sur... on va penser tout de suite à Spider-Man. Super pouvoir, super responsabilité. Est-ce qu'il est naturel pour l'individu doué de pouvoirs qui sont considérés comme super pouvoirs vis-à-vis de l'humain normal, est-ce que la super responsabilité, elle est naturelle? À quel moment celui qui se rend compte qu'il est surpuissant se rend compte qu'il est super responsable ou irresponsable?
C'est pas mal du tout. Alors l'origine, c'est évidemment Peter Parker, qui est un peu un zigoto jusqu'à ce que son oncle Ben meure. Et là, il comprend qu'il va avoir des obligations. Mais souvent, dans les personnages, la responsabilité, elle arrive après la décision d'assumer ses super-pouvoirs. Par exemple, dans l'historique de Clark Kent, ça a donné lieu à un vrai conflit familial. Par exemple, sa mère d'adoption, Martha, comprend tout de suite que Clark va vouloir utiliser ses super pouvoirs pour faire quelque chose de bien. Alors que... comment s'appelle le père Kent son père d'adoption, merci beaucoup. Jonathan Kent, lui, a peur pour son fils. Et d'ailleurs, intéressant, c'est pas le père, c'est la mère qui le pousse. Il y a autre chose aussi, c'est que beaucoup de super-héros deviennent à eux-mêmes leurs propres parents, puisque beaucoup de super-héros sont orphelins. Les grands super-héros, ils sont orphelins soit de leurs parents, soit de leur planète. Ça peut être Norrin Rad, le surfeur d'argent, qui perd sa planète. C'est évidemment Superman. Donc, ils sont obligés, comme ils n'ont pas de passé, de se bâtir leur futur à partir d'un présent qu'ils décident. Et donc, ça les oblige à être responsables. Voilà. C'est quand ils assument leur destin.
Est-ce qu'inversement, on trouve des super-vilains avec, par contre, un passé familial lourd qui expliquerait leur irresponsabilité?
Tout à fait. Alors, il y a tout un jeu autour du Joker qui, à chaque occasion, va vous présenter une autre version de pourquoi il est devenu le Joker. C'est toujours des versions larmoyantes et qui sont en fait des plaisanteries. On ne saura jamais, il ne faut jamais qu'on sache. Mais vous avez, par exemple, Magneto, qui est un vrai leader politique... il y a tout l'arc narratif Genosha, qui est une sorte d'Israël pour mutants, où en fait c'est intéressant parce que le personnage de Magneto au début c'est simplement le contrepoint de Charles Xavier, c'est celui avec lequel on va stoler chaque semaine dans le comic, ils ont leur contrepoint, puis Magneto va évoluer en véritable... il est déjà charismatique dès le début. Il a une super allure avec les cheveux blancs, les espèces d'ailes blanches et tout. Il en impose. Xavier aussi est très charismatique. Mais c'est toujours Clermont. Hein, va avoir l'intelligence de tirer tout le bénéfice de l'origine de Magneto, qui est juif et qui a connu les camps, pour en faire un leader. Ce qui fait qu'on va arriver avec... deux personnages forts qui sont Martin, ils l'ont toujours dit chez Marvel, Martin Luther King, c'est Charles Xavier, et Malcolm X, c'est Magneto. Et donc, Magneto perd un peu son statut de méchant, au point qu'actuellement, d'ailleurs, il est l'un des directeurs de l'Institut Xavier.
Ouais. Oui, il devient directeur de l'Institut Xavier.
Voilà, oui, oui.
Quel personnage Magneto? Alors
moi, j'aurais une question. Alors, c'est totalement lié à mon travail actuel, puisque je fais actuellement une thèse sur les super-héros. Donc, du coup, cette question du super-pouvoir est absolument essentielle si je veux arriver à définir les choses et à faire comprendre à des gens qui ne sont pas forcément familiers de ce monde-là. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez du super-pouvoir quand il est lié, alors en particulier chez Marvel, quand il est lié à une hybridité animale. Donc, on a une araignée, un rhinocéros, un scorpion, bref, il y a vraiment tout un bestiaire totémique chez Marvel. Et je voudrais savoir si vous pensez que on a dans cette hybridité, dans cette bestialité homme-bête, justement, super-héros humain, on aurait la résurgence d'une, ou plutôt la création d'une nouvelle mythologie, d'une mythologie post-moderne, on pourrait dire, qui est liée aux caractéristiques même du super-héros et des super-vilains qui le défient.
Ah, c'est une remarque, une question très intéressante. Et en fait, je suis pas certain que ce soit chez Marvel qu'on est le meilleur représentant, mais dès 1939 chez DC Comics avec Batman, qui est une divinité chtonique. En fait, il naît sous terre. Il y a la caverne qui va d'ailleurs être de plus en plus exploité, notamment par des gens comme Neil Gaiman ou Grant Morrison, où il s'avère que la caverne, qui était juste une caverne au départ, va devenir en fait une espèce de lieu matriciel. On va y ajouter une croyance amérindienne. On sait maintenant que les fondations du manoir Wayne sont en forme de W, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de plus en plus de creuser sous le manoir Wayne pour trouver des résurgences chtoniques. Alors, ce qui est intéressant avec Batman, c'est qu'il porte son totem sur lui. Il est initié par la chauve-souris. C'est le fameux accident quand il est petit du vivant de ses parents où il tombe dans un trou et qui va être redoublé par la vitre fracassée et la chauve-souris qui apparaît la nuit, qui va lui donner l'idée. Vous savez, les premiers combats de Batman, c'est sans uniforme. Hein. Il est d'ailleurs, il s'en prend plein la tronche. Ça, c'est intéressant. Le premier combat de Batman, il n'est pas en tenue. C'est Bruce Wayne justicier. C'est Charles Bronson qui revient en ville. Et ça ne marche pas. Il s'en prend plein la tronche. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il lui faut une tenue d'emprunt. Et non seulement, à mon avis, vous avez raison, il y a une dimension totémique chez certains super-héros. C'est Straczynski, d'ailleurs, qui va le voir chez Marvel en disant, il va faire toute une série de scénarios en disant, écoutez, on a plein de super-héros avec des noms d'animaux, on va trouver une raison qui fait que dans l'univers Marvel, il y a autant de héros animaux. Et il va expliquer qu'en réalité, ils sont tous liés par des espèces de légendes, souvent amérindiennes d'ailleurs, qui se sont réactivées au 20e siècle, ou maintenant au 21e, parce qu'il ne faut pas tenir compte de la chronologie, il faut toujours réactualiser, qui fait qu'à ce moment-là, ça s'est réveillé chez Spider-Man et d'autres. Enfin, pour vous donner raison, il y a la notion même de temps chez Batman, par exemple, où on n'est pas dans un temps linéaire, un temps historique, mais on est dans un temps circulaire, un temps mythique. C'est-à-dire que on envoie le Joker au Arkham Asylum, donc on a fait une boucle, ça y est, il est reparti, puis il va ressortir, ils vont se rebattre, il va y retourner, il va ressortir, etc. Donc il y a en tout cas chez Batman, c'est évident, une dimension mythique à tous les coups. Alors que chez Marvel, et ça a toujours été, ça tient notamment à la tonalité politique de Marvel, qui sont largement de gauche quand même, gauche américaine hein, bien sûr, où il y a une inscription dans le temps historique. Je rappelle que le Captain America n'intervient pas pendant la guerre du Vietnam, par exemple, c'est intéressant. La guerre sale, on ne voit pas Steve Rogers. Donc oui, effectivement, il y a une dimension évidente, mythique dans les super-héros. Ce qui serait intéressant, c'est d'ailleurs d'interroger l'étymologie même de super-héros. Pourquoi ils sont super ça lève plus blanc que blanc. Et ça lève blanc, mais c'est super blanc. Pourquoi c'est super-héros Parce que pourquoi c'est super-héros Ça voudrait dire qu'il y avait des héros avant. Alors, c'est qui les héros? Ben, on peut imaginer que c'est les héros des pulp, en fait. Qu'il y a eu The Shadow, Doc Savage, etc. Et que l'avènement des comics a donné les super-héros. Voilà.
En tout cas, le lien avec le mythe, pour moi, est indiscutable.
C'est
tout à fait.
Oui, il est évident.
Si on, en anthropologie, si on relit les travaux sur le mythe, comme Le mythe et le sacré, La violence et le sacré de René Girard, ou sur le double, on voit bien la racine mythique du super-héros, du rapport à son costume, du rapport à son double.
Par exemple, il y a une chose qui est importante, c'est qui date de cette semaine. Tous les gens qui s'intéressent aux super-héros l'ont vu sur Facebook, c'est que, vous savez, il y a cette vignette à la fin du Killing Joke de Alan Moore et Bolland, où on voit le Joker et Batman pris d'un fou rire dans le faisceau d'un phare la nuit. Et il y a plein de gens, il y avait une rumeur, une légende urbaine qui disait que, vu le dessin final de Bolland, Batman était en train, en fait, d'étrangler, de secouer le Joker et il le tuait, ce qui était assez pauvre, en fait. C'est un peu idiot. Et enfin, Alan Moore a dit que, mais non, pas du tout, ils se marrent ensemble, ils rient. C'est-à-dire que c'est une espèce de... Dans leur cours suicidaire, où ils vont mourir l'un et l'autre, un jour, il y a une espèce d'instant de lucidité et ils ont un fou rire à deux. C'est magnifique et vachement plus inquiétant, en fait. Beaucoup plus inquiétant.
Ouais, ouais.
Là aussi, c'est mythique, c'est un principe double. C'est Harry Mann et son frère.
On est bien parti là. Alors, question. Oui.
Alors, moi, il y a une question qui me taraude, c'est quel est le meilleur super pouvoir? Et surtout, de qui, entre Superman et Sangoku, gagne?
J'ai pas entendu la première question.
Alors, quel est le meilleur super pouvoir? Et surtout, entre Superman et Sangoku, qui gagne?
Dans tous les cas, il n'en restera qu'un, et c'est forcément Batman, puisque... Batman, il y a toute une histoire qui est géniale, où Batman est viré de la Ligue des Justiciers le jour où ils ont compris qu'il a un plan pour tuer chacun des héros de l'univers DC, y compris un plan pour tuer Batman. Batman lui-même. Dans la boucle de ceinture de Batman, il est admis maintenant que dans l'univers DC, il a un fragment de kryptonite, de toute façon. Il porte en permanence de la kryptonite. Mais il a même un plan pour tuer Batman. C'est génial.
C'est excellent. Et alors, quel est le meilleur super-pouvoir?
Oui.
Et donc, quel serait le meilleur super-pouvoir? Alors, ça, c'est une question qui était la première partie de la question. J'insiste, vous avez vu.
Là, on est dans le subjectif, dans le personnel. Mais je pense que c'est Batman.
Oui, d'accord.
Je pense
okay.
vraiment que...
Bravo.
c'est... Mais alors, le problème, ça se paye d'être le plus fort. Et on peut se demander maintenant qui est l'identité d'emprunt. Et on peut penser que l'identité factice, c'est Bruce Wayne maintenant. Il a tellement basculé. Et il y a d'ailleurs une très belle histoire de Neil Gaiman qui met vraiment à faire pleurer, qui est une très très belle histoire en quelques pages où on voit Bruce Wayne prostré, le jeune Bruce Wayne, donc il a 25 ans, il est prostré dans un fauteuil la nuit et Alfred téléphone à des amis. Une jeune et jolie fille, un type avec un nez pointu, très mince, etc. Un autre un peu petit, lui aussi, avec un nez, etc. Et il leur dit, bon allez, il va falloir s'y remettre. Et il se déguise en Catwoman, Joker, le pingouin. Et dès que Bruce Wayne les voit apparaître, il se réveille, il fonce, il s'habille en Batman, il se bat, etc. Le dessin est outré, par exemple... Catwoman prend des poses à la Louise Brooks, etc. C'est très très beau. Et à la fin de la bande dessinée, Alfred donne des enveloppes avec un chèque à chacun. Bruce Wayne est souriant et oui, on sait très bien qu'il va retomber dans son fauteuil prostré. Ouais. Et en fait, la fortune de Wayne sert tout simplement à le sortir de la dépression et rien n'existe en réalité. Elle est magnifique, celle-là.
Ça pourrait être tout factice. On pourrait faire la même analyse sur Sherlock Holmes. Avec les affaires de. Parce que finalement, sans affaires, il meurt sur pied.
Voilà, oui.
Et donc, peut-être que Scotland Yard crée les affaires.
Voilà, oui. Bah, d'ailleurs, ça a été utilisé dans la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, dans le segment qui a été coupé, qu'on n'a jamais vu, qui est génial. Il y a, à la fin du film tel qu'on le connaît, il y a la magnifique Irène Valadon qui est fusillée par les Japonais. Parce qu'elle est espionne prussienne, donc elle est fusillée. Holmes la prend et tombe dans la dépression. Et Watson, pour l'en sortir, invente une enquête, invente le crime impossible. Il colle des meubles, il va dans les docks londoniens et il loue un immeuble, un garni. Il colle des meubles et un cadavre au plafond. Et Watson s'impose de n'avoir aucune raison. Lui-même ne cherche surtout pas à construire un crime impossible parce qu'il sait que très bien que s'il est soumis au regard de Holmes, il va donc il fait n'importe quoi de manière à créer l'enquête impossible et sortir Holmes de sa prostration. C'est génial. Ah,
excellent,
ça.
Excellent. On y va. Autre question. Oui.
Alors, je vais revenir juste au super pouvoir en tant que tel. Est-ce qu'on peut imaginer des super pouvoirs réellement inutiles? Je pense notamment à la série HeroCorp où on a beaucoup de super pouvoirs, de capacités, mais qui ne servent pas à grand-chose finalement. Est-ce que c'est viable ça, hors de l'humour justement?
Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a les mystères humains avec la colère, celui qui se met en colère, ça sert à rien. Mais
celui qui est invisible dans Mystères humains, vous avez. Alors c'est de l'humour, hein, parce que vous avez dit hors de l'humour. Bien. Donc nous on part forcément sur l'humour, mais il y a celui qui est quand même, c'est un pouvoir remarquable, qui est invisible, mais uniquement quand personne ne le regarde. Mais il est vraiment invisible, mais quand personne ne le regarde.
Voilà,
et il y en a un qui a un pouvoir de colère, effectivement. Mais là, on est dans le registre de l'humour. Alors, est-ce qu'il y a des super-pouvoirs inutiles en sortant, c'est ça, hein, du registre de l'humour?
Ah, moi, j'ai dans le livre pour les enfants des super-pouvoirs, ça, je l'ai utilisé. Dans les super-pouvoirs, par exemple, j'ai utilisé... c'est pour les petits, hein, c'est un livre pour les petits, mais il y a celui qui arrive à ranger sa chambre sans que ça soit lui. C'est tout simplement le super pouvoir le plus partagé par les enfants, puisque tous les enfants se font ranger leur chambre.
Oui, mais ça, c'est très utile, du coup.
En fait, c'est très utile. Alors, on peut imaginer, s'il y a des gens qui ont un super pouvoir inutile, on peut imaginer que par l'effet papillon, si un jour Galactus ou les Skrulls débarquent, votre super pouvoir qui consiste à bouger les oreilles ou quelque chose comme ça, par un jeu de conséquences dans la théorie du chaos, servira à éliminer Galactus. Il ne peut pas y avoir de super pouvoir inutile.
Après, il y a souvent des super pouvoirs qui s'annulent les uns les autres. C'est un principe narratif assez classique. Et c'est vrai que si on regarde toute l'histoire des comics, que toi tu maîtrises parfaitement, c'est un peu un principe narratif, c'est-à-dire que rien ne doit être gratuit. Donc par essence, rien ne peut être inutile dans un univers fondé sur la narration, les comics, etc.
Il y avait eu, je crois que c'est Morrison, quand il travaillait sur Eclipso, où il y avait un personnage qui... c'est un peu comme celui qui joue des maracas dans un groupe de rock. Il avait un personnage qui n'avait aucun pouvoir et qui était il suffisait qu'il se prenne un coup, il mourait. Et il était toujours dans l'équipe, alors que les autres avaient un super pouvoir. Et ce qui était très intéressant, c'est que le fait qu'il soit là sans pouvoir stabilisait les autres qui ne s'entendaient pas entre eux. Et donc, c'est parce qu'il était inutile que les personnages devaient veiller sur lui, etc. Et c'était très bien trouvé. Donc l'inutilité avait encore son utilité.
Mais c'est une question quand même difficile. Hein. Là, on a... Ah, bravo, bravo. Alors, on continue. Ah, ils sont cachés un peu sur le côté là-bas, oui. Allez-y.
Quel est le problème?
Parlez bien près du micro, sinon on ne vous entend pas. Il marche, mais parlez bien devant le micro.
Quel est le problème à vivre sans super pouvoir dans une société où il y a des super pouvoirs?
Alors, à vivre sans super pouvoir dans une société où il y a des super pouvoirs un peu partout, c'est ça ?
Oui, ça.
Quel serait le problème à vivre sans super pouvoir ?
Alors, c'est intéressant. Il y a deux séries qui travaillent sur ça. Il y a celle d'Alan Moore et il y a eu Power, tout simplement aussi, la série Power, où il y a une recrudescence de personnages à super pouvoir. Et y a aussi tout simplement Gotham Central où on suit les flics de base de Gotham et de temps en temps on en voit qui s'agitent. Ça a été exploité, il y a Marvels, la série en 4 volumes Marvels qui était très bien, où on suit un photographe de guerre qui voit ce qu'est l'ordinaire des gens sans super pouvoir à vivre avec super pouvoir. Le problème de n'avoir pas de super-pouvoir dans une société où émergent les super-pouvoirs, ça va vous donner... C'est surtout chez Marvel, c'est connoté Marvel, ça. C'est le fait que les personnages vont continuellement être menacés, en danger. Regardez le nombre de fois, par exemple, où New York est détruite chez Marvel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages limites, genre Daredevil. Ce qui est intéressant, c'est que Daredevil a des pouvoirs, mais il évolue dans un quartier Hell Kitchen où il n'y a pas de pouvoir, mais il y a une vraie violence. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs de Daredevil qui lui permettraient d'appartenir à une super équipe, genre les Vengeurs par exemple, suffit à peine à contenir la violence et le crime exercé par des gens sans super pouvoir, mais qui sont tristement réalistes. Hein. C'est la drogue, l'arme et le sexe dans Hell's Kitchen. Ça, c'est intéressant. C'est une question intéressante. Vous avez donc des personnages comme Daredevil qui sont presque en danger par rapport à des gens qui n'ont pas de super pouvoir. Et donc, quand Daredevil affronte des personnages qui ont des pouvoirs, c'est pas intéressant. Daredevil, il est vraiment formaté pour être en contact avec des personnages qui n'ont pas de super pouvoir et qui le menacent vraiment, en fait.
Sans compter
Il y perd quand même sa première fiancée, Karen Page, qui est victime de la drogue. C'est intéressant. Elle se prend pas un rayon thermique dans la tronche. C'est la drogue. C'est une question très intéressante.
C'est un des personnages les plus sombres qu'on trouve, chez Marvel. Oui. Avec le rapport à la loi, ça m'intéresse aussi particulièrement, mais je ne vais pas projeter mes obsessions sur le public.
Il y a des personnages aussi qui, bien qu'ayant un super pouvoir, vont être diminués. C'est par exemple The Green Arrow, l'archer vert, qui dans sa continuité va perdre un bras à un moment. C'est intéressant aussi. Des fois, les coups portés laissent des traces.
Alors moi j'ai plein de questions aussi, mais priorité à vous, allons-y. Alors oui, monsieur là, oui.
Je voulais juste réagir sur la question d'avant sur le meilleur super pouvoir. Moi je pensais au pire super pouvoir. Pour moi c'est celui de voyager dans le temps. Oui. C'est vraiment une horreur. Au niveau des scénarios ça change tout. Et puis quelque part celui qui a le pouvoir de voyager dans le temps, il est forcément le plus fort. Puisqu'il peut tuer son ennemi avant qu'il naisse par exemple. Donc je me demandais, est-ce que vous étiez d'accord avec moi ? Est-ce que vous pensiez que le voyage dans le temps ne devrait pas exister et qu'on devrait faire une convention pour ne plus jamais en faire ?
C'est vrai, vous avez bien raison, bravo.
J'aurais quand même une petite opposition, parce que imaginez que vous soyez très bien en couple et tout va bien, et puis à bout de 10 ans, votre couple est en crise et vous regrettez... le début où tout était parfait et tout, et vous avez vraiment envie de vous redonner une chance. Alors bien sûr, sans que la personne avec qui vous êtes s'en rende compte, vous construisez une machine à remonter dans le temps, ça on passe, c'est rapide, vous faites ça dans le garage, et vous revenez 5 ans en arrière. Évidemment, vous tuez votre moi de l'époque, vous reprenez sa place. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez tout recommencer. Et ce qui est génial, surtout, c'est que si, mettons, en 5 ou 10 ans, vous avez pris 6 kilos, votre compagne ne va pas s'en rendre compte. parce que personne dirait, même si on se prenait du jour au lendemain, pour elle c'est du jour au lendemain, 10 kilos, personne dirait « Oh mon Dieu, tu viens du futur après avoir inventé une machine à remonter dans le temps et tu es ton conjoint ». Donc ce qui est génial, c'est aussi que c'est le pouvoir de persuasion du cerveau. Donc gardez quand même un coin garage pour bricoler une machine à remonter dans le temps.
Ouais, sans compter que si les réponses de Xavier Bomméjean sont aussi brillantes à vos questions, c'est parce que nous avons déjà plusieurs fois voyagé dans le temps, oui, pour savoir quelles étaient toutes vos questions. Voilà. La seule qu'on n'a pas encore vue, c'est la demoiselle là-bas, mais on va faire la boucle, vous allez voir, la prochaine fois,
on va être carrément brillant. Hein.
Ok. Alors... Oui, allez-y, bien sûr. Vous êtes prioritaire. Moi, j'ai des questions aussi, mais...
Moi, du coup, je voulais revenir juste sur Daredevil parce que ce que vous avez dit était vraiment passionnant. Dans la mesure où Daredevil, il a un super pouvoir qui pose question sur les véritables capacités de certains aveugles. Et en fait, je me demandais si justement le fait que Daredevil soit pas... Enfin, il est très fort dans ses capacités de perception et dans la capacité qu'il a à encaisser les coups et à se relever. Mais du coup, c'est un pouvoir qui concerne son environnement et la façon dont il appréhende son environnement. Et c'est un pouvoir qui concerne sa survie, surtout. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire que, finalement, Daredevil a beau être un super aveugle, mais est-ce qu'il n'est pas, finalement, l'un des super-héros les plus normaux qu'on pourrait trouver dans sa capacité à survivre en permanence et dans sa capacité à... Batman a dit un jour... Je crois que c'était sous le règne de Miller, il me semble que c'est dans The Dark Knight. Batman dit un jour, je me suis peint une cible sur la poitrine parce que je ne peux pas me blinder la tête. Et je pense que Daredevil a simplement appris, enfin simplement, il a un super pouvoir, c'est indéniable, mais il a appris plus rapidement que n'importe quel autre aveugle, pas de naissance mais accidenté. Il a appris plus rapidement que n'importe quel autre, selon moi, à augmenter ses capacités attentionnelles, puisqu'il est sans arrêt en train de se battre et qu'il a un nombre d'informations à gérer qui est absolument phénoménal dans l'univers où il évolue. Et donc, c'est plus qu'un super-héros, c'est un survivant perpétuel qui ne fait qu'appliquer l'entraînement qu'il a reçu, tout comme le ferait Batman, finalement.
Ah, c'est très vrai, c'est certain, et ne serait-ce que... Là, je reviens vraiment à l'épisode initial de Daredevil. C'était d'ailleurs un défaut des productions Marvel de l'époque. Tout allait beaucoup trop vite. Le format, je crois que c'était 12 pages à l'époque. En 12 pages, Daredevil perd la vue. Enfin, Matthew Murdock perd la vue, et son père surtout. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se place du point de vue de Matthew Murdock, son super pouvoir, ce n'est pas, contrairement à Batman, ce qu'il peut faire lorsqu'il est en tenue, c'est le droit. C'est très important de revenir aux 12 planches originelles quand le père Battling Jack Murdock lui dit « Non, je veux pas que tu ailles jouer dehors, je veux que tu étudies ». Et ce qui est très intéressant, c'est que les victoires personnelles de Matthew Murdock sont des victoires au barreau. C'est vraiment ce qui compte. Et ce qui est très intéressant dans l'évolution du personnage, c'est qu'un peu comme Al Capone, le Winston Fisk, le caïd, est vaincu légalement. C'est au barreau qu'il le gagne. Alors, il y a un truc très intéressant et... Mon ami Hugo sera concerné de plein droit. Il y a eu une planche qui est une sorte de planche gag qui est magnifique. Il faut que tu la trouves, faut qu'on te l'offre. Où DC et Marvel ont rassemblé leurs deux plus grands avocats. Donc, c'est une idée des deux maisons. On va faire, et elle est géniale. Il y a donc Matthew Murdock pour la Marvel et Harvey Dent pour la DC Comics. Ils sont jeunes, c'est-à-dire que c'est la Gotham Universe, c'est un concours d'éloquence. Donc il faut que tu la trouves.
J'ai un nouveau but dans la vie.
Voilà. Donc elle est très bien. C'est un concours d'éloquence où on envoie les champions. Alors la Gotham University, on voit le jeune Harvey Dent. Ils sont pas diplômés, hein. Ils sont étudiants. Et Marvel envoie Matthew Murdock et c'est Harvey Dent qui gagne le concours d'éloquence. C'est joli en plus. Voilà.
D'accord, faudra que tu me donnes les références précises quand on trouve ça. Mais je suis d'accord avec, évidemment, je suis d'accord avec vous deux en réalité. Le vrai super pouvoir de Daredevil, c'est la résistance. Et c'est finalement un message très adulte par rapport à un nombre de messages qu'on trouve dans les super-héros où on veut tous des super-pouvoirs. Au final, le vrai super-pouvoir, c'est de savoir, malgré ces super-pouvoirs, avoir une vie de citoyen digne de ce nom. Et c'est vrai que, du coup, en contre-champ, on a, par exemple, effectivement, ce que tu dis aussi sur Bruce Wayne et par rapport à Batman. C'est vrai que Bruce Wayne n'est qu'un emprunt, finalement. Donc, Batman n'est pas du tout dans la citoyenneté, de ce point de vue-là. Ce qui me donne envie de te poser une question. Je suis désolé, j'en pose au moins une. C'est 35, on a encore du temps. On a encore assez de temps. Quelle est la différence fondamentale, parce que je me pose la question depuis toujours, pour toi, entre l'esprit général de DC Comics et l'esprit général de la Marvel, du point de vue des représentations de la société américaine, du point de vue de... Tu as dit tout à l'heure, Marvel est plus à gauche, une gauche américaine, etc. Mais ce n'est pas au niveau politique, c'est vraiment au niveau citoyenneté. Comment tu sentirais la différence entre les leçons de citoyenneté chez Marvel avec des gens comme Iron Man, comme Captain America, etc. Et puis les leçons de citoyenneté chez DC Comics. Est-ce qu'il y a une vraie... C'est une question difficile, mais je me pose depuis toujours. C'est pour ça que j'hésite toujours à me dire laquelle j'utiliserais de façon pédagogique dans le cadre d'un cours de droit, par exemple. Laquelle, voilà. Donc,
Y a une distinction déjà qui fait la jonction entre la loi qu'on a vue il y a 5 minutes et ta question. Y a déjà une distinction très importante chez DC. Il y a eu un partage entre leurs deux héros champions. C'est que Superman protège les innocents tandis que Batman punit les coupables. C'est pas du tout la même conception de la justice. Et d'une certaine manière, l'affaire est réglée pour DC. D'accord. C'est-à-dire qu'on est sur des notions, on est sur des concepts qu'on développe. Barry Allen, le premier Flash, ou Jordan, le premier Green Lantern, ne sont pas concernés par la notion de la justice fondamentalement. La question de la justice, elle est centrée sur deux personnages. Chez Marvel, c'est beaucoup plus riche et complexe. Déjà, c'est Jean-Marc L'Officier. Jean-Marc L'Officier, c'est un Français qui est le seul Français à avoir scénarisé chez DC Comics un Superman, un Batman et un Wonder Woman, un Français. C'est Jean-Marc L'Officier qui disait que la force de l'univers Marvel, c'est qu'il est cohérent depuis une impasse dans Hell's Kitchen jusqu'aux gardiens de l'univers qui sont les vigilants mais qui n'interviennent pas. Tout est cohérent. Et cette cohérence, elle n'est rendue possible que parce que Marvel a toujours été à l'écoute de la vraie politique, des vrais problèmes de société. Par exemple, vous avez T'Challa, la panthère noire, qui a représenté une alternative aux héros blancs quand c'était important, alors que DC a tendance à occulter ces problèmes. Marvel non seulement assume les changements de société, mais parfois même les anticipe. C'est intéressant. J'évoquais le silence intelligent de Captain America au Vietnam. Ils ont envoyé Captain America au Vietnam, ils le fichaient en l'air, c'était terminé. Ils ont été intelligents. Et il y a chez Marvel une vraie conscience morale et politique qu'il n'y a probablement pas chez DC Comics. Ça, c'est certain.
D'accord. Merci de cette réponse très claire qui m'aide beaucoup moi aussi pour mon rapport aux super-héros. Oui.
J'ai une deuxième question. Et entre parenthèses, je précise que Captain America aussi est devenu nomade à un moment qui ne voulait plus du tout être Captain America ou rejeter la politique américaine.
Avec un costume ridicule en plus.
Le principe même du nomade était quasiment internationaliste. Mais ceci dit, ma question est en dehors de Hercule ou Merlin, est-ce que déjà on peut estimer que Hercule ou Merlin sont des super-héros? Le Hercule de la mythologie grecque ou le Merlin de la mythologie celte, quel est le premier personnage de l'histoire de la littérature, du cinéma, de la bande dessinée, le premier personnage dont on peut estimer que c'est un ou une super-héroïne, super-héros?
Alors là, il y a, pour une fois, il n'y a pas de querelle d'exégète, c'est le Nyctalope, il est français. Là, on va en parler, Jean de La Hire, le Nyctalope 1911, que Serge Lehmann a su si bien et avec tant de talent réactiver. Le Nyctalope, c'est une sorte de mélange entre Wesley Dodds, qui était le premier Sandman, et Iron Man. C'est un personnage qui a des capacités naturelles, il voit la nuit, mais bon, pas très loin avec ça. Bob Moran a ça aussi. Mais surtout, il a un cœur artificiel, donc c'est son côté Iron Man. Et il pose tout parce que non seulement il a des capacités augmentées, mais il va devenir un expert en arts martiaux, pratiquement un télépathe. Et donc on peut, je crois, sans trop polémique, dire que le premier super-héros de l'histoire du genre, c'est le Nyctalope 1911, Jean de La Hire. Personnage intéressant puisqu'il a une fin digne d'un Dark Knight, mais hélas pas intentionnel, une fin crépusculaire puisqu'il va faire le mauvais choix pendant l'occupation et il va être proche de la milice et des nazis. Donc c'est un personnage qui est très intéressant parce que en bien ou en mal, et la fin c'est clairement en mal hein, à cause des choix de Jean de La Hire, c'est un personnage qui a un début, un milieu et une fin que de nos jours, on aurait voulu comme ça, qui aurait été postmoderne. Frank Miller aurait fait ça. Donc, c'est clairement le Nyctalope. Doc Ardan aussi. Mais vous savez que vous avez... comment il s'appelle vous avez un Docteur Strange français. C'est le Sar du Noctal, voilà. Sevestre, c'est Docteur Strange. C'est le Napoléon de l'occulte. Bon... pas terrible, hein. Le grand psychagogue, mais c'est vraiment Docteur Strange. Il est dans Paris, il a eu contact, il a un corps mystique qui s'envole dans les astres, il communique avec des démons, etc. Et c'est écrit dans les années 20. Il faudrait que Serge reprenne tout ça. Voilà, oui.
Alors tiens, justement une question sur le retour, justement les hommages aux années 20, aux années 10, finalement au début du 20e siècle, la réinvention au sens même juridique du terme qu'il fait du Nyctalope. Ce retour justement aux héros des années 20, des années 30, et puis l'engouement qu'on a aujourd'hui pour des héros qui sont quand même comme Superman ou Batman, qui ont une histoire séculaire, on y est hein, quasiment, je veux dire... On arrive presque à un siècle de... Est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à trouver de nouveaux super-héros? Est-ce qu'on a besoin de réactiver les mythes européens, on va dire, incarnés par ces super-héros avant de passer à autre chose? Est-ce que ça révèle une... Est-ce que ce retour vers le passé, c'est plutôt bon signe et au contraire, ça montre justement une réactivation? Pourquoi aujourd'hui encore cette fascination pour des héros aussi vieux, entre guillemets?
Avant de répondre précisément à la question, j'aimerais évoquer, puisque effectivement on est à une époque où on revisite et on relit, j'aimerais évoquer un grand ratage qui est celui de Superman. Il y a une bande dessinée qui a été écrite, dessinée, publiée dans les années 70, qui était censée être la fin de Superman. Après, il y a eu d'autres fins, mais celle-ci... il se trouve que cette fin, qui a donc été dessinée au milieu des années 70, Superman est paraplégique. Il est dans un fauteuil roulant, et c'est poignant. Hein. Vous lisez ça, vous sanglotez. Il est paraplégique, et il y a une image finale où il est en tenue de Superman. Il est vieux, les tempes blanchies. Il se lève... péniblement de son fauteuil, il s'envole, est-ce qu'il meurt hein. Et je me suis toujours dit, je suis certain que Christopher Reeve aurait accepté de l'incarner. Et c'est une fin qui est très belle parce qu'elle est pas, elle est écrite à l'époque, elle n'est pas écrite comme aujourd'hui, comme on revisite. C'est-à-dire qu'elle est naïve, elle est belle. Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas d'ironie. Or, de nos jours, on est dans la relecture. Alors, c'est fait admirablement. Serge Lehmann, Fabrice Collin sont des gens qui ont un talent énorme et qui font des choses vraiment agréables à lire et qui ont le mérite de réveiller... Mais c'est de la relecture. Et effectivement, la question, c'est Laurent Kessy, qui est lui le vrai spécialiste des super-héros, qui dit arrêtons les relectures et le postmodernisme. Il faut que, de nouveau, Superman sourit, qu'avec ses lunettes, il fasse ça. Vous voyez, Clark Kent, il suffit qu'il fasse ça et on ne voit plus Superman. Il faut redevenir une sorte de naïveté. Il serait peut-être temps d'arrêter la relecture postmoderniste.
Oui. Oui, ce qui est vrai aussi pour d'autres genres de l'imaginaire et d'autres... Mais d'accord. On continue. Oui, monsieur, vous avez un micro ?
Le micro est ici.
Il y a un micro qui va à lui. Bah, je viens.
Moi, ma question, c'est savoir pourquoi les Britanniques veulent absolument détruire l'image du super-héros. On le trouve à travers, par exemple, l'œuvre de Garth Ennis sur The Boys, par exemple, où il imagine que les pouvoirs viennent d'un procédé chimique et que tous les super-héros sont dépravés et on crée une équipe pour les détruire. Et ou à travers la série Misfits anglaise, où on donne des super-pouvoirs... À des jeunes délinquants et leurs ennemis sont par exemple un chef scout qui est possédé par un démon et qui veut le posséder ou alors une jeune femme qui transforme n'importe qui en grenouille de bénitier.
Voilà. Bon, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est les Anglais. Les Anglais ont toujours pas accepté que les anciennes colonies fassent sécession, donc il y a déjà ce problème. La deuxième raison, elle est tout simplement due au potentiel qu'on apportait. Il faut remonter à Judge Dredd. Le premier démontage des super-héros, c'est plutôt Judge Dredd. Et vous évoquiez Nice et The Boys, mais oubliez pas qu'à la fin de The Boys, on découvre que tous ceux qui ont désingué les super-héros, à part le dernier arrivant, étaient des pourris de première, surtout le leader, qui est un enfoiré de première, quand même. Donc c'est une sorte de grande destruction générale. Puis tout simplement que c'était un passage obligé, il fallait à un moment démonter le mythe des super-héros, mais je crois que ça a été fait, ça a été bien fait. Par exemple, moi je regrette que, très honnêtement, que Miller en soit la troisième histoire du Dark Knight. Le premier était tellement beau et définitif qu'il n'aurait jamais dû y toucher. Et soit les Anglais, c'est vrai que c'est surtout les Anglais, mais même ça nous amènerait loin, mais par exemple, Alan Moore n'est pas cohérent du tout individuellement. Peu importe, mais c'était peut-être nécessaire, mais il serait peut-être temps, comme dit Laurent Kessy, de revenir à une naïveté qui est bienvenue, quoi.
Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va arriver, parce que si tu regardes la science-fiction, non pas qu'elle soit en train de retrouver une naïveté, mais je pense qu'elle est en train de retrouver les racines utopiques qui sont les siennes. Notamment avec la réactivation de l'ailleurs, tu vois, le nouveau space opéra. Et on a dépassé le stade de la relecture, donc peut-être que les super-héros... Alors, la question que j'ai envie de poser aussi, je profite, c'est toutes ces adaptations cinématographiques qu'on a presque par dizaines, quoi, maintenant chaque année, Ant-Man encore il n'y a pas très longtemps, etc. Est-ce que ce n'est pas une manière de marquer justement la fin d'une réappropriation? Et est-ce que ça n'annonce pas peut-être justement... voilà, finalement, de fait d'avoir... Parce qu'on perd beaucoup de choses quand même, de la complexité des comics, des planches, tu parles des planches originales, on perd beaucoup de choses, des non-dits de ces planches, lorsqu'on passe au cinéma avec des films de qualité très diverse et parfois d'ambition très diverse. Est-ce que le troisième mouvement de la symphonie du super-héros, du super-pouvoir, c'est pas justement ce qui va arriver à partir de maintenant, après qu'on aura fini, enfin de rendre hommage et de...
Je ne sais pas, parce que il y a un élément qui est très important, c'est que par exemple Marvel, c'est des malins. Je crois que les adaptations cinématographiques chez DC, c'est un peu la foire à la farfouille, ça dépend un peu du talent du réalisateur. Chez Marvel, c'est pas le cas. On a des Yes Men, on n'a pas eu vraiment pour l'instant de grands films, mais ils ont eu cette intelligence d'envoyer au front, de mettre en première ligne non pas l'univers Marvel mais l'univers Ultimate Marvel. Ce qui fait que si jamais ils épuisent l'intérêt pour l'univers Ultimate, bon, en gros, la différence, c'est que Nick Fury est blond dans l'univers original. Et ça revient finalement à ça. Et dans l'univers Marvel, Ultimate, c'était dès le début Samuel Jackson, Nick Fury. Et le fait de changer de Fury, on gagne en classe, en violence, en second degré, en mot d'esprit... Mais justement, s'ils épuisent leur intérêt pour cinématographique, pour Ultimate, ils auront toujours l'idée de se dire, un peu comme George Lucas avec ses versions de Star Wars, « Ah non, mais attendez, maintenant on va revenir au début. » Et d'ailleurs, ça commence, puisque le Nick Fury original vient de revenir, en fait. Il réapparaît alors qu'il avait complètement disparu. Et donc... il va y avoir un changement, à mon avis, qui est imminent, mais qui serait en fait un retour au début. Pas une recréation.
D'accord. D'autres questions ?
Oui.
Oui.
Alors, une question psychologique que vous attendiez depuis votre précédent passage dans le futur. Le héros a tendance à être acclamé par ceux qui l'ont sauvé. C'est la reconnaissance de la victime pour son sauveur. Mais par contre coup, il y a aussi la détestation pour celui qui nous rend notre propre faiblesse. Comment le super-héros peut être super-héros et protéger les gens alors même qu'il finira par, ça va passer au cinéma bientôt, avoir un mouvement d'opposition contre lui parce qu'en jouant le rôle de la police, il rend les policiers inutiles, mais il rend aussi toute chose humaine inutile puisqu'il les fera mieux que nous. Alors, donc, à mort le super-héros.
Oui, c'est très fin comme question. Et une fois de plus, c'est Marvel qui a répondu à tout ça en une seule fois. Et c'est la réponse, c'est Yancey Street. Benjamin Grimm, la chose, est originaire d'un quartier populaire et même précisément d'une rue populaire qui est Yancey Street. Et donc c'est la chose. Une fois qu'il est devenu la chose, il n'y a guère que Hulk qu'il peut affronter. Et à coup sûr, en plus le malheureux... Benjamin Grimm, les meilleurs pancakes qui, selon lui, sont à Yancey Street. Donc quand il revient dans sa rue, quand il retrouve donc les petites frappes qui l'ont connu quand il était Benjamin Grimm, bien qu'il puisse affronter Hulk, bien qu'il puisse affronter Galactus ou n'importe qui, Benjamin Grimm se fait toujours avoir sur Yancey Street. C'est-à-dire qu'on lui balance des cailloux, de la peinture, etc. Et c'est justement cette rue, c'est une sorte de terrain neutre qui montre que ok, vous êtes là, vous nous avez sauvés, on vous déteste pas comme on déteste parfois Peter Parker, mais faut pas trop nous la jouer quand même. Et une fois de plus, c'est l'intelligence de Marvel qui s'en sort.
D'accord. Alors monsieur qui est venu nous rejoindre, à vous.
Moi j'avais plus une remarque qu'une question, mais parce que c'était tout à l'heure sur le démontage et la réinvention du super-héros. Je trouve que Warren Ellis est parti là-dedans, puisque déjà avec The Authority, on a que pourrait être un super-héros aujourd'hui, c'est-à-dire avec une morale qui puisse correspondre à autre chose que du binaire, etc., et de s'apercevoir que c'est pas si facile que ça. Mais pour moi, s'il y a un nouveau super-héros, c'est un super-héros qui prend en compte des problèmes de société, une vision de la sociologie, une vision de la compréhension des médias, etc., et du coup c'est Spider-Jérusalem avec Transmétropolitaine. Et là on peut dire oui, on peut faire des nouveaux super-héros, mais ils doivent être comme ça. Si c'est pour refaire un Batman ou un Superman, bah, moi, ça ne m'intéressera pas parce qu'ils vont être vus comme soit fascistes, soit très réac. Ouais.
Vous avez tout à fait raison. Et en plus, sur Warren Ellis, par exemple, quand il est forcé de travailler sur un matériau qui est préexistant, je pense par exemple à sa relecture de Moon Knight, il faut quand même... qui change quelque chose. Et l'assistant de Moon Knight qui est un français est gay maintenant, et je trouve que c'est pas du tout pour le petit piquant ou pour faire postmoderne. C'est très intelligent, c'est cette espèce de relecture contemporaine, de remettre le personnage. Et même quand on lui impose un personnage, il faut que ce soit un personnage d'aujourd'hui, et c'est toujours très fin. Warren Ellis, c'est évident. Donc okay. Même pas simplement dans ses créations, même dans ce qui lui est imposé.
Il nous reste 5 minutes, on a encore le temps pour 2 questions, je pense. Allez-y.
Moi j'ai une question, c'est qui est souvent revenu en cause dans Marvel ou dans DC Comics avec Batman, c'est est-ce que les super-héros sont bien ? Car au final, il y a des méchants qui n'ont jamais fait aucune victime. Et quand on regarde le Punisher, lui, il a fait des milliers de victimes. Et bah, au final, il vaut pas mieux que certains méchants. Donc sont-ils mieux ? Et on voit dans Batman, il l'a dit, qu'au final, les super-héros, bah, ils sont pas si utiles que ça. Car la force de Batman, c'est que bah, tout le monde est Batman. Du coup, sont-ils utiles ? Car si tout le monde est Batman, bah, du coup, nous sommes nos propres super-héros et donc on n'a pas besoin d'eux.
Oui, alors, c'est assez vrai, sauf que, oui, c'est malin. Et le Punisher est un personnage sur lequel on aurait pu beaucoup parler. Mais cela dit, le Punisher n'est pas maître de ses capacités mentales. Il est donné comme étant psychopathe. Hein, il lui est arrivé une chose, c'est l'avant et l'après du pique-nique à Central Park où sa famille s'est retrouvée sous le feu croisé de deux gangs. Donc lui est donné comme fou, ce qui permet à Marvel de dire oui, d'accord, il a tué toute une famille de mafieuses, mais il est fou. Donc, tandis plus inquiétant moralement que le Punisher, c'est Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne, lui, ne tue pas, mais il dit souvent dans les planches. Si tu ne me réponds pas, tu ne pourras plus te servir de ce bras. Donc, d'accord, il ne tue pas, mais enfin, les lésions portées par Batman en colère, ça vous fiche la vie en l'air. Hein, et en ce sens-là, je ne sais pas si on peut être tous Batman ou le Punisher. Ou...
Il ne tue pas, mais indirectement, si, quand même, car il n'a pas tué le Joker. Et il y avait un film en dessin animé qui montre que quand Batman s'est résilié, le Joker s'est résilié. Donc,
Oui, alors, et c'est vrai qu'on se pose souvent cette question-là. Oui. Est-ce que ce n'est pas les super-héros qui créent le problème, en fait,
oui,
en
alors,
réalité
vous avez tout à fait raison. Il y a un arc en 4 épisodes magnifique qui s'appelle Going Sane, où le Joker est persuadé d'avoir tué Batman. Batman avait une grippe, et ses mouvements étaient ralentis, il n'a pas pu échapper à l'explosion, le Joker, il le touche avec le pied et il pense qu'il est mort. Il rentre, il va bronzer le teint, il se teint les cheveux, il trouve une fiancée, il trouve un boulot et c'est remarquable. C'est-à-dire qu'une fois que Batman est mort, le Joker disparaît. Elle est magnifique, celle-là.
Bien sûr, mais c'est une réflexion qu'on entend souvent sur le fait que, par exemple, l'ampleur des destructions provoquées par les conflits entre les super-héros et les super-vilains, qui sont souvent provoqués par les super-héros eux-mêmes, sont plus dévastatrices finalement que les super-vilains. Allez, il reste le temps pour une question. Une dernière réflexion de notre invité.
Oui, sur la tuyauterie quand même.
Ah oui, sur la tuyauterie
de l'appartement, merci. De Clark Kent.
Alors vous allez tout savoir sur la tuyauterie oui, alors, de Clark Kent, enfin de l'appartement.
C'est quelque chose qui m'avait souvent préoccupé et finalement dans The Big Bang Theory, il l'aborde la question aussi. Donc il faut croire que c'est quelque chose d'important. Et je vous laisse réfléchir à ça parce que Clark Kent habite dans un immeuble. Quand il est à Metropolis, on a l'adresse, on a même son adresse mail. Il habite dans un immeuble, donc avec des humains. Donc quand Clark Kent va aux toilettes, que devient le super popo de Clark Kent ? Parce que il peut pas avoir des toilettes chimiques avec de la kryptonite, il serait malade. Il ne peut pas demander à la LexCorp, pour des raisons évidentes, de s'occuper de ses problèmes hygiéniques. Il peut à la limite demander à Starlab ou à WayneTech. Donc j'imagine qu'en fait, Clark Kent fonce à une vitesse équivalente pratiquement à celle de la lumière dans la forteresse de la solitude au pôle Nord. Qu'est-ce qu'il a à faire ?
Non, il y a plus simple. Il y a plus simple. Il a des toilettes sèches, écologiques, et il crame ses matières fécales avec ses yeux.
Oh, ben voilà, merci Hugo. Voilà, bravo.
Bon, on l'avait pas préparé celle-là, en fait.
Mais on la garde dans nos voyages
dans
le temps.
Encore des applaudissements pour notre grand spécialiste. Merci.
Merci à vous.
Merci. Et merci à vous.